Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien de la matinale le secrétaire général de la CGT, actualité sociale chargée sur laquelle j'attends vos questions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Philippe Martinez, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être sur Inter ce matin. Emmanuel Macron lance ce soir à Rodez devant 500 personnes le grand débat sur les retraites. Hier, le président de la République vous recevait en tête à tête à l'Élysée. C'est une première depuis juin 2017. Vous aviez réclamé ce rendez-vous en accusant le président de choisir les syndicats avec lesquels il voulait dialoguer. L'acte 2 du quinquennat résumé par vous, je vais vous citer, c'est « Je discute avec les syndicats que j'ai une chance de convaincre ou avec qui je partage un certain nombre de points de vue ». Fin de citation. Vous aviez, Philippe Martinez, le sentiment d'être maltraité par l'exécutif. Vous étiez jaloux de la CFDT et de l'UNSA?
Non, on a une certaine conception de la démocratie sociale. Il y a plusieurs syndicats en France, des syndicats représentatifs à l'échelle nationale, et donc ils doivent être traités de la même façon. Et quand le président reçoit un syndicat non représentatif,
l'UNSA,
ça, il a le droit. Mais là, on voit directement qu'il fait des choix, et donc on a voulu faire respecter l'idée que l'acte 2, puisqu'on en parle beaucoup, et bien que ça ne soit, on reçoive tous les syndicats et pas uniquement certains. C'est
donc,
tout.
Donc il vous a reçu hier, ça a duré combien de temps?
Presque 2 heures.
Sur le fond, quelle a été la teneur de vos échanges? On connaît votre position sur la réforme des retraites, vous êtes clairement opposé à cette réforme. Est-ce que ça a été un dialogue de sourds pendant 2 heures ou vous avez pu trouver des terrains d'entente?
Alors premièrement, on n'a pas discuté que des retraites parce que quand on ne se voit pas pendant 2 ans et demi, on a plein de choses à dire. En tout cas, la CGT a plein de choses à dire. Donc on a parlé évidemment industrie, environnement, services publics, transport, etc. etc. Sur la question des retraites, j'avais pas l'illusion de pouvoir le convaincre. Ceci dit, je note que sur un certain nombre de points, les réponses se font attendre, et y compris, ils ne nous donnent pas tort. Un exemple, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, sur l'idée que leur système de retraite allait réparer les écarts. Et quand on lui dit, mais réparer les écarts entre les salaires entre les femmes et les hommes pendant la vie active, vous allez voir que ça va avoir un impact direct sur les pensions des femmes, il n'a aucun argument pour dire, vous avez tort. Sa seule réponse c'est « mais vous avez vu, on l'a inscrit dans la loi ». Bon, c'est inscrit dans la loi, je lui dis « pourtant, il y a toujours, les femmes sont toujours moins payées que les hommes, donc il y a urgence ». Vous voyez, et sur ce type d'argument, il va falloir qu'ils accélèrent justement la mise en œuvre de la loi.
Avant de rentrer dans le détail de la réforme des retraites, de ce que vous vous êtes dit, de ce que vous avez demandé, est-ce que vous avez entrevu un changement de méthode, plus de concertation de la part du président de la République, plus d'écoute de sa part? Est-ce que ce qu'il affiche comme l'acte 2 du quinquennat, vous l'avez ressenti hier?
Non. Non, je ne l'ai pas trouvé différent. Je l'ai pas trouvé différent de la dernière fois que je l'avais vu. Je pense qu'il est conscient de son image vis-à-vis de l'opinion publique, et donc il faut le changer. Que ces petites phrases, comme vous les présentez, sont très décalées par rapport au vécu et à la réalité des citoyens. Je crois que c'est son plus grand problème. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Il vit dans son monde, mais son monde à lui n'est pas le monde dans lequel vivent une très grande majorité des citoyens de ce pays, et voire de la planète. Et donc, il essaie de se rendre plus proche des gens, d'où les débats. Alors, le grand, le petit, je sais pas, mais ça n'a pas changé. Enfin, ce qu'il va faire ce soir,
à Rodez,
sans être machiavélique, c'est quand même des gens dans une salle qui posent des questions, et le professeur qui répond. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de débat contradictoire. Nous revendiquons, et d'ailleurs nous allons les organiser, des débats où c'est argument contre argument, et nous, on croit à l'intelligence des citoyens, ils écoutent l'un, ils écoutent l'autre, et ils se font leur opinion, c'est ce que j'ai
essayé. Chez vous, ce sera contradictoire, c'est ce que vous nous dites.
Oui,
les débats de la CGT seront contradictoires.
J'ai déjà commencé, vous le savez, à la Fête de l'Humanité, un débat fort intéressant, du point de vue de l'assistance, entre Monsieur Delevoye et moi-même. Il a défendu ses positions, j'ai défendu les miennes, et ceux qui étaient là ont pu se faire une idée, bonne ou mauvaise, de ce que disait l'un ou l'autre. C'est ça un débat, c'est pas une salle de classe.
Sur le fond, Philippe Martinez, le fait de vivre plus longtemps et donc de devoir travailler plus longtemps, ça vous semble illogique? Ça vous semble être un sophisme ou ce n'est pas simplement vrai?
C'est trop court de dire ça comme ça.
Expliquez-moi alors.
Mais je vais vous expliquer. Pourquoi on vit plus longtemps aujourd'hui par rapport à, par exemple, à la date de la création de la sécurité sociale et de la retraite? C'est parce qu'on travaille moins.
C'est grâce au progrès de la médecine aussi.
Aussi. Mais on travaille moins, vous êtes d'accord avec moi. La durée hebdomadaire, peut-être pas vous, mais la durée, dans la loi, la durée hebdomadaire du temps de travail a baissé. L'âge de prise de départ à la retraite a baissé. Donc on vit, on travaille moins, c'est pour ça qu'on vit plus longtemps. On nous propose d'inverser le cours de l'histoire, c'est de travailler plus. D'ailleurs, tout montre qu'on travaille déjà plus, malgré la loi, tant de façon hebdomadaire, c'est-à-dire sur la durée de la vie active, et les gens, vous le savez, commencent à partir plus tard à la retraite que l'âge légal. Donc on inverse le sens de l'histoire. Donc il faut... une société moderne, c'est le progrès. Là, on fait tout le contraire. Et puis, l'espérance de vie en bonne santé stagne, voire régresse. Parce que c'est bien de rester longtemps à la retraite. Mais si c'est pour être allongé et sans bouger, je ne crois pas que ça soit la meilleure idée de profiter de sa retraite. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais le sens de l'histoire, ce n'est pas aussi de financer une réforme des retraites. Mais et s'il y a de plus en plus de gens qui sont à la retraite, il faut trouver l'argent. Donc, on trouve comment? Vous vous êtes opposé à toutes les réformes des retraites qui sont passées. Mais si elles n'avaient pas eu lieu, on en serait où? Aujourd'hui, les cotisations auraient explosé, les déficits auraient explosé. Et est-ce que vous ne pensez pas que peut-être même les retraites ne seraient pas payées?
Vous avez remarqué là aussi que à chaque réforme des retraites, pour lesquelles nous nous sommes opposés, on nous a dit c'est la dernière, ça va s'arranger. À toutes, on nous a dit ça. Or, c'était pas la dernière. Donc parlons du financement. Premièrement, il faut remettre des gens au travail. Tant qu'il y aura un niveau de chômage aussi important, eh bien, il y aura un problème pour gérer le fait qu'il y ait de plus en plus de retraités. Parce que quand on travaille, on touche un salaire et on paye des cotisations, pas des charges. On paye des cotisations qui servent pour la retraite, pour la santé, etc. Il y a besoin de revoir les politiques d'exonération des grandes entreprises. Vous savez que jusqu'à 2,5 fois le SMIC, les grandes entreprises, notamment, je ne parle pas des artisans, sont exonérées de cotisations. Ben ça, c'est de l'argent en moins pour la retraite, pour la santé, parce que faut aussi parler de la santé. Vous voyez qu'il y a des sources de financement. Vous pouvez pas me dire que les entreprises du CAC 40 sont sur la paille. 51 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires en un trimestre. Donc il faut une meilleure répartition des richesses.
Jean-Paul Delevoye, Philippe Martinez, et je prolonge ce que vous venez de dire, explique que le système à points va précisément permettre de mieux prendre en compte des carrières de plus en plus hachées, avec des contrats de plus en plus courts. Vous pouvez le refuser, mais n'est-ce pas là l'état du marché du travail aujourd'hui?
Ça, on peut pas...
Avec donc du coup la nécessité d'avoir un système de retraite qui... ne laisse pas les gens sur le bord de la route.
Sur ce constat, on peut pas être en désaccord, forcément. La précarité, elle est là, le chômage, il est là, les temps partiels...
Le chômage, il baisse.
Le temps partiel imposé, notamment pour 80% de personnes qui sont des femmes, il est là. Le chômage, il baisse, mais quelle est la nature de l'emploi? Quand on prend, parce qu'on n'a pas d'autre solution que de prendre un boulot à 12 heures par semaine, vous voyez à peu près combien ça fait comme salaire? Vous voyez à peu près? Vous croyez qu'on peut vivre avec ça? Donc il faut aussi regarder la nature de l'emploi. Donc effectivement, il y a des solutions, pas pour mettre un pansement sur une jambe de bois, pour régler ces problèmes de précarité, mais il y a besoin de solidarité. Or, notre système actuel, il est solidaire. C'est-à-dire que ceux qui ont les moyens, eh bien, ils financent aussi ceux qui ont moins de moyens, parce que on doit, face à la santé, face à la retraite, on doit avoir les mêmes prestations. Les mêmes besoins, donc les mêmes prestations.
Vous expliquez que ce système à points qu'ils veulent mettre en place est injuste. La CFDT dit que c'est un progrès social.
Ils sont plus nuancés que ça.
Oui, mais ils disent... Sur le fond de la philosophie, le système à points, ils ne sont pas contre.
J'en ai parlé hier au président de la République. Il y a un pays où il y a un système de retraite à points, par points. La Suède, vous savez, le modèle social. Bon, il y a une statistique. En France, 7,5% des personnes de plus de 65 ans vivent sous le seuil de pauvreté. C'est beaucoup. En Suède, vous savez combien c'est? 15%. 15, le double. Donc le président m'a dit, oui, mais la Suède, c'est pas notre modèle, on va faire autre chose. Je dis, mais c'est un système par points, vous voyez ?
Ouais, Édouard Philippe a dit devant l'université du Modem dimanche qu'il a validé que la valeur du point de retraite serait gérée par une autorité indépendante où siégeraient les syndicats. Est-ce que ça ne vous rassure pas ?
Ça ne me rassure pas, parce que c'est pas un problème de gestion, c'est un problème d'orientation politique. Dans d'autres systèmes où c'est paritaire, quand l'État, le chômage par exemple, quand l'État dit « je veux 4 milliards d'économies », qu'on siège ou qu'on siège pas, la finalité, c'est qu'ils disent « bon, vous avez assez discuté, maintenant j'impose mes méthodes ». Vous voyez qu'on n'est pas quand même, on n'est pas dupes.
Donc ce qui est valable pour le chômage, l'assurance chômage, pour vous, pourra l'être à terme sur les points, la valeur du point.
Faut parler de concret. L'assurance chômage, vous avez vu. Et vous avez vu que c'est pas la CGT qui exagère. On était même, j'ai même trouvé qu'on avait joué petit bras parce que l'UNEDIC a sorti un rapport qui va beaucoup plus loin que ce qu'on disait. C'est du concret, ça. Hein.
Sur les régimes spéciaux, le Premier ministre a dit que les bénéfices acquis seraient préservés, y compris donc pour les régimes spéciaux, et que les fonds des régimes des professions libérales, médecins, avocats, etc., ne serviraient pas à équilibrer l'ensemble du système de retraite. Est-ce rassurant, selon vous ?
Non, mais
c'était des points dans le débat. Donc
oui,
dites-nous.
Mais on est dans une période assez drôle. Je pense que le gouvernement et le président de la République sentent que c'est un sujet complexe et qui inquiète beaucoup de monde. Vous avez vu les sondages. Et donc chacun y va de sa petite phrase. Monsieur Philippe dit une chose, la ministre de la Santé en dit une autre, Monsieur Delevoye pour l'instant ne dit rien, et le président de la République, on va voir ce qu'il va dire ce soir. Il faut qu'il y ait un discours cohérent. Unique, et pour l'instant, nous, notre base, c'est le rapport Delevoye. Il n'y a rien d'autre comme base aujourd'hui. Et donc, on l'a lu, on l'a écouté, on a discuté 18 mois avec lui, et pour l'instant, la seule conclusion que moi j'en tire, c'est que tout le monde, au moins en face, nous dit, vous allez travailler plus longtemps. Ça, là-dessus, ils sont clairs.
Sur les régimes spéciaux, quand vous entendez le Premier ministre dire, est-ce que c'est normal qu'un chauffeur de bus du Havre travaille 5 ou 7 ans de plus qu'un chauffeur de bus de Paris qui peut partir à 55 ans, vous lui répondez quoi ? C'est pas logique.
Je lui dis qu'il a raison. C'est pas normal. Et donc, il faut que le chauffeur de bus du Havre ait les mêmes conditions de départ à la retraite que le chauffeur de la RATP. Pourquoi il faudrait ramener tous les droits vers le bas ? Pourquoi on les met pas vers le haut ? Même boulot, même pénibilité. Même retraite. C'est ça la justice sociale.
Vous allez faire quoi, pardon ? Il y a des grèves qui sont prévues ? Vous allez durcir le mouvement ? Qu'est-ce qui est prévu, là, dans les prochains jours ?
Pardon. Ce qui est prévu, c'est que, par exemple, les retraités, la semaine prochaine, seront dans la rue, avec les actifs. Il y a, évidemment, une annonce le 5 décembre, en perspective, pour la RATP, et c'est une date sur laquelle nous réfléchissons pour pouvoir l'élargir, mais entre-temps, on a rencontré d'autres organisations syndicales, FO par exemple, où on travaille sur des mobilisations.
Des grèves interprofessionnelles.
Des grèves interprofessionnelles, mais on ne met pas de côté toutes les grèves qui existent aujourd'hui. Vous savez, je suis très attentif à ce qui se passe dans la santé. On ne va pas dire aux personnels de santé qui ont un juste combat pour de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires et plus d'emplois, d'abandonner leur lutte pour parler de retraite. Il faut s'appuyer sur les aspirations des salariés mais la retraite, ça intéresse tout le monde. Donc la finalité, c'est aussi ce débat-là. Donc il y aura des mobilisations, effectivement, et puis il y aura des débats, je vous en ai parlé, parce qu'il y a encore beaucoup de gens à convaincre. Vous savez, quand ils entendent l'âge légal, l'âge pivot, l'âge d'équilibre, ils se disent « Ouh là là, expliquez-nous ».
On ouvre le dialogue avec les auditeurs d'Inter. Bonjour François, bienvenue.
Bonjour Nicolas, bonjour Léa, bonjour Monsieur Martinez.
Bonjour.
Je suis enseignant en Seine-Saint-Denis et donc aujourd'hui je suis en grève suite au décès de Christine Renon. Cette grève, elle a lieu aujourd'hui parce que à la demande des organisations syndicales, la FSU, la CGT, FO et les autres, le CHSCT départemental se réunit pour éviter qu'un autre drame comme celui de Christine Renon se produise. Et en fait, dans les lois Macron sur la loi travail, il y a la suppression des CHSCT dans le privé. Et donc, je voulais avoir un avis, un commentaire de Monsieur Martinez sur cette situation.
Merci François pour cette question. Philippe Martinez vous répond.
Oui, c'est un drame malheureusement qui devient presque une banalité, pas que dans l'enseignement, dans le public et dans le privé. On a dénoncé à plusieurs reprises. La première chose, c'est effectivement, il faut de la représentation de proximité. Et les CHSCT, qui ont été supprimés dans le privé, d'ailleurs On pourrait évoquer la catastrophe à Rouen sur ces questions-là. Les CHSCT, leur mission, c'était d'être à côté des salariés, d'écouter la souffrance, mais aussi de trouver des solutions en matière de santé, d'organisation du travail. Moi, j'ai demandé au président de la République pour la 6e fois, parce que je lui demandais déjà quand il était ministre, qu'on ait un vrai débat dans ce pays sur le travail. Le travail. Le mal-travail. Le mal-être au travail. Parce que ça touche aujourd'hui tout le monde, ou en tout cas une très grande majorité. Il y a des chercheurs qui bossent sur ces questions-là. Je vois le travail qu'a fait Alain Supiot, par exemple, à l'occasion du centenaire de l'OIT. Eh bien, il y a besoin de réfléchir sur le travail. Pourquoi il y a une démotivation dans le travail? Pourquoi on en arrive à des gestes aussi dramatiques? C'est un problème de société, et donc il y a besoin de se poser et de trouver des solutions. Oui, il y a des organisations de travail qui sont ultra rigides et qui font supporter toute la pression à ceux qui travaillent. Il y a des façons, des consignes de travail, et je crois que la lettre qu'a laissée cette directrice est claire là-dessus, où on est obligé de tout faire, parce qu'on a supprimé des emplois. Je vois dans la santé, le personnel soignant me dit à chaque fois, on fait plus d'administratif que notre mission originale, qui est de soigner les gens. Donc il faut se poser, il faut réfléchir, il faut écouter les salariés. Et donc oui, il y a besoin, dans ce contexte-là, de représentants des salariés qui sont très proches des salariés. Or, la réforme et les ordonnances ont éloigné les représentants du personnel de leurs collègues de travail.
C'est la question, effectivement, de François. Est-ce que le premier bilan de la suppression des CHSCT peut déjà être fait pour ce qui est du privé?
Des CHSCT, des délégués du personnel et des représentants des comités d'entreprise. On nous éloigne, par cette loi, de plus en plus des réalités et des préoccupations des salariés. Mmh. Et évidemment, je comprends que les salariés ne soient pas contents, y compris avec ce qui s'est passé, les gilets jaunes, etc. Ils disent, on ne voit pas les syndicats, évidemment. On a tellement à gérer de choses, nous aussi, enfin dans les entreprises, s'occuper de la vie économique de l'entreprise, des conditions de travail, des revendications, qu'on n'est plus dans notre mission originelle, qui est d'être aux côtés des salariés.
Une question de Frédéric sur l'application Inter, c'est une question de colère. Je suis cheminot dans la région Bourgogne-Franche-Comté. On subit à l'heure actuelle une réorganisation imposée avec une violence rare, dit-il. Pas de concertation, pas de réflexion, dossier non bouclé. Tout ça sans aucune réaction des syndicats, CGT comprise. Que faites-vous? L'abandon de la SNCF et d'autres grandes institutions nationales comme la Poste, la Santé, l'Éducation nationale est-elle une impression, vous demande Frédéric. Qu'attendez-vous pour vous mobiliser sérieusement? Un poste au gouvernement, trois petits points.
Non, pas ça, c'est, je crois que c'est pas la meilleure façon de régler le problème. Je comprends que face à de telles attaques, on soit agacé, énervé, en colère. Ceci dit, bon, je crois qu'à la SNCF, l'année dernière, il y a eu des mobilisations très forte à la Poste, il y a des grèves pratiquement dans tous les bureaux de poste pour réclamer des services publics de proximité, des emplois. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'évidemment, pour répondre, parce que je vois bien le sens de la question de Frédéric, c'est pourquoi on n'est pas tous derrière les cheminots ou les services publics. Mais je pense, par exemple, aux salariés de General Electric. Eux, leur préoccupation, c'est de préserver leur emploi dans leur boîte. Ce qu'il faut, c'est qu'à partir des problèmes des uns et des autres, on puisse se rassembler tous ensemble et se mobiliser. C'est ça le sens. Mais en tout cas, je pense que sur ce que décrit Frédéric sur les conditions de travail, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Voilà. On a des directions d'entreprise qui nous sortent des notes de service. Il faut travailler comme ça, qui sont absolument scandaleuse et qui génère du mal de travail et de la souffrance au travail.
Je ne sais pas si vous avez entendu Jean-Pierre Farandou, celui qui va remplacer Guillaume Pepy à la tête de la SNCF. Il était devant les députés hier, il a dit, je le cite, hein, il faut absolument que les salariés de la SNCF soient multitâches. Quand moi je suis rentré à la SNCF, les gens étaient polyvalents, les gens faisaient tout dans les gares, ils faisaient passer les trains, ils vendaient les billets, ils livraient les wagons et ils passaient le balai s'il le fallait. On a sédimenté tout un tas d'accords locaux qui ont pour effet que les gens travaillent moins de 35 heures aujourd'hui.
Ben on dirait pas qu'il a fait toute sa carrière à la SNCF, ou alors il va jamais voir les cheminots, parce que enfin vous venez de citer un cheminot. Enfin ils sont premièrement c'est pas des feignants, parce que cette petite musique consistant à dire que tous ceux qui ont des statuts etc c'est des gros feignants, ça suffit. C'est des salariés qui se lèvent de très bonne heure, qui dorment pas tous les jours chez eux, parce que ceux qui conduisent c'est des salariés qui travaillent le samedi, le dimanche, mais comme d'autres fonctionnaires. je pense aux électriciens, par exemple, quand il y a des tempêtes, que le courant est coupé, qui monte au pylône, qu'il neige, qu'il pleuve, que ce soit un jour férié ou pas, c'est eux. Donc il faut arrêter avec cette musique. Et je pense que le futur PDG de la SNCF commence mal.
C'est une menace ?
Bah, c'est lui qui menace. Parce que si on considère que ses propos, c'est de la considération pour le personnel de la SNCF, je crois qu'il faut qu'il revoie sa copie.
Allez, deux questions d'actualité pour terminer. D'abord, vous en parliez, Rouen, une semaine après l'incendie de Lubrizol, Édouard Philippe a déclaré hier à l'Assemblée nationale que la responsabilité et les dommages relèvent de l'entreprise et que l'entreprise n'échappera pas à sa responsabilité. L'entreprise devra payer. Vous dites pareil.
Ah bah c'est le minimum, parce que c'est quand même un grand groupe. Qui est un des actionnaires de cette entreprise ? C'est un des plus gros milliardaires de la planète. Donc c'est le minimum. Par contre, le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation a été mal gérée par le gouvernement. Quand il y a une catastrophe comme ça, c'est de la transparence. Quatre ministres ont défilé pour dire non, il se passe rien. Enfin, les gens, quand la ville est toute noire, ils disent attendez, vous vous foutez de nous. Donc il y a besoin de transparence sur ce sujet-là, mais aussi penser aux salariés, parce que il y en a qui ont vécu 30 ans à côté de ces produits, et c'est le cas dans beaucoup d'entreprises. Eh ben, il faut aussi, vous savez, dans certaines catastrophes, je pense à AZF, même si l'usine avait été dans le désert, il y aurait eu 21 morts, au moins, les salariés.
Le débat immigration aura lieu lundi prochain, Philippe Martinez, qu'est-ce que vous en attendez ?
C'est à chaque fois, et tous les gouvernements le font, à chaque fois qu'il y a des problèmes sociaux importants, on déplace le problème et on prend le sujet de l'immigration. C'est absolument scandaleux. Premièrement parce que ce n'est pas la première préoccupation des Français, contrairement à ce qu'ils essaient de nous faire croire. Et puis c'est un débat qui consiste à refuser d'assumer ses responsabilités en les renvoyant vers d'autres. C'est le débat, c'est faire la course derrière le Rassemblement National. Voilà, nous on se bat, il y a des luttes des travailleurs sans papiers en ce moment, à Paris, il y a 12 sites. Eux, ils travaillent. Ils payent des cotisations sociales pour nos retraites. Mais sauf qu'ils sont privés de droits parce que justement, sans papier, on peut les exploiter. Ben nous, notre fierté, c'est d'être à côté d'eux et je tiens à les saluer pour qu'ils aient des droits, les mêmes droits que nous et qu'ils soient régularisés.
Quand Emmanuel Macron estime que le droit d'asile est dévoyé, qu'il faut regarder l'immigration en face sinon on se comporte comme des bourgeois qui détournent les yeux, est-ce qu'il a forcément tort ?
Enfin, oui. Enfin, quand il parle de bourgeois, il doit savoir de quoi il parle. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui se noient dans la Méditerranée. C'est ça, ça devrait être ça sa première préoccupation. Quand des gens meurent comme ça, des enfants, des femmes, on parle pas de bourgeois, de je ne sais quoi, de revoir le droit d'asile. On les accueille, on les soigne, et après on réfléchit. Mais la priorité, c'est de les accueillir et de les soigner.
Philippe Martinez, merci, secrétaire général de la CGT.
Invitation.
Merci d'avoir été au micro d'Inter ce matin. Il est 9h moins le quart.